bonjour, bonjour. Yves au micro de Divergence FM, et si je le faisais avec Ola Kossan pour une fois? Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes aux secondes, qui est très heureux de vous retrouver, Kong, pour vous parler de musique, de film, de cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, l'accent je ne le fais pas très bien, depuis maintenant largement plus d'une centaine d'années. Et ce jour, eh bien dans 24, un autre seconde, nous allons évoquer une période bien lointaine. Quoique, la guerre froide, un vocable introduit par le célèbre écrivain George Orwell, quelque part à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour évoquer eh bien, la lutte que menèrent de façon clandestine ou moins les États-Unis d'un côté à ma gauche, si l'on veut dire, l'URSS de l'autre côté à ma droite. Si l'on veut dire, c'est-à-dire d'un côté les régimes communistes et de l'autre les démocraties occidentales qui, entre 1947, quelque part à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et 1991, ce sont les dates retenues, quelque part après la chute du mur de Berlin, eh bien, se firent la guerre généralement par pays interposés pour ce qui était des vraies guerres et par propagandes diverses et variées pour ce qui est des fausses guerres. Et la propagande, eh bien, hélas, tant mieux, on ne sait pas, c'est un genre en soi. Ça passe souvent par le cinéma, comme va d'ailleurs l'illustrer le premier extrait musical que nous allons entendre. En l'espèce, il s'agit d'un film tourné en 1955 par Anthony Mann lui-même, un film qui réunissait dans les rôles principaux James Stewart et June Allison. Et James Stewart, eh bien, dans ce film, tenait tout simplement le rôle du commandant d'un B-29. Et je dirais, devenait rapidement major dans l'armée de l'air américaine pour travailler au Strategic Air Command. C'était d'ailleurs le titre du film qui fut l'un des bras armés de l'armée américaine pendant toute la guerre froide. J'ai été un peu bafouillou, il faut le reconnaître, donc je vous propose d'écouter sans plus attendre un extrait de la bande originale de ce film, Strategic Air Command, un film d'Anthony Mann 1955, dans 24 notes secondes. un large extrait de la bande originale de Strategic Air Command, un film d'Anthony Mann tourné en 1955, dont j'ai oublié de vous préciser, avant d'écouter l'extrait, que la musique en était signée de Victor Young, l'un des grands compositeurs hollywoodiens des années 50-60, un film qui mettait en vedette James Stewart pour une longue collaboration, pour une longue collaboration entre Stewart et Anthony Mann, puisque ces deux-là tournèrent pas moins de 8 films ensemble. Et en lisant ma petite fiche, pendant que vous écoutiez cet extrait, moi aussi, mais je peux faire deux choses à la fois, peut-être que vous aussi, cela dit, eh bien, je découvrais qu'en fait, James Stewart avait été, durant la Seconde Guerre mondiale, justement pilote et instructeur d'avion, puisqu'on lui doit 20 missions au combat, et que dans les années 50, il fut dans la réserve de la Air Force, et qu'à ce titre-là, il fut inclus dans des missions d'observateur, dit ma petite fiche, non impliqué, non-duty observer, dans des B-52, quelque part au-dessus du Vietnam, avec donc une illustration toute parfaite du thème de ce jour dans 24 notes secondes, qui est la guerre froide qui se poursuivit entre la Russie, l'URSS, pardonnez-moi, et les États-Unis, mais qui impliqua aussi d'autres partenaires, comme on va pouvoir en juger dans le film que nous allons évoquer maintenant, un film tourné par Jack Lee Thompson en 1969 avec Gregory Peck dans le rôle principal, avec un scénario des plus abracadabrants, une histoire de science-fiction, va-t-on dire, puisque on y voyait les Chinois, alors en pleine révolution culturelle, inventer une formule magique qui permettait de faire pousser du blé en pleine jungle tropicale. Et du coup, eh bien, les forces des gentils américains, bien sûr, invitaient Gregory Peck à s'insinuer en Chine pour voler le secret de cette invention. L'homme y rencontrait Mao Tse-tung, alors en pleine révolution culturelle. Il n'y jouait pas au ping-pong, comme le fit plus tard Nixon avec le susdit, mais ma foi, l'histoire était des plus rocambolesques qu'il voyait d'ailleurs, comme quoi la guerre froide pouvait avoir sa part d'ambiguïté. Russes et Américains collaboraient contre les méchants Chinois, puisqu'il est bien connu qu'on est toujours le méchant ou le gentil de quelqu'un d'autre. Bref, le film n'est pas resté dans les mémoires, il faut bien le reconnaître, mais ça va nous permettre d'écouter un extrait d'une bande originale signée de Jerry Goldsmith, et ce sont toujours quelques minutes volées à la trivialité des temps. Donc un extrait de cette bande originale, je ne suis même pas sûr d'en avoir donné le titre, mais non, je ne l'ai pas donné. Alors, je récapitule. En anglais, ça s'appelait The Most Dangerous Man in the World ou The Chairman, ça dépend. Et en français, eh bien, ça s'appelait L'homme le plus dangereux du monde. À l'époque de la guerre froide, mesdames et messieurs, on traduisait en français les titres des films américains. Mais oui, allez, Jerry Goldsmith dans 24 notes secondes. Thank you. La montée, le crescendo typique de certaines partitions de Jerry Goldsmith pour un extrait de la bande originale de L'homme le plus dangereux du monde. C'était peut-être un peu exagéré. Un film de Jack Lee Thompson tourné en 1969, et 69 c'est mieux, et une évocation assez curieuse de la guerre froide qui, en l'espèce, impliquait la Chine. Cette guerre froide qui, de 1947 aux années 90, au début des années 90, eh bien, fit de nombreux morts de part et d'autre avec des guerres par procuration, comme en Corée ou au Vietnam, et souvent, eh bien, dans ce genre de conflit, l'arme la plus sérieuse et la plus redoutable, c'est le rire. Et c'est celle que choisit en 1963 Stanley Kubrick lui-même pour signer son grand chef-d'œuvre. Mais Stanley Kubrick a tourné peu de films indifférents. Ça s'appelait en anglais, je prends mon souffle, Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. En français, ça s'appelait Docteur Folamour, mais je vous retraduis quand même l'ensemble du titre original, Docteur Folamour, Strange Love, quelque chose de ce genre, ou Comment j'ai appris à cesser de m'en faire et à aimer la bombe atomique, bien sûr, puisque c'est de cela qu'il s'agissait dans cette comédie féroce, inspirée, d'après ce qu'il en dit à l'époque, à Stanley Kubrick par une déclaration du président Kennedy lui-même, qui fit beaucoup pour populariser la guerre froide, il faut le reconnaître, qui disait qu'il y avait beaucoup plus de chances pour qu'on appuie sur le bouton déclenchant la bombe atomique par erreur que de façon concertée. Et ma foi, c'était bien ce dont il s'agissait. C'est dans ce film une comédie féroce où de méprise en malentendu, eh bien, on finit par provoquer la fin du monde, mais le tout dans le rire le plus éblouissant. Et des éblouissants, il y en avait beaucoup parmi les acteurs de ce film. Il y avait peu de filles, forcément. Ce sont des militaires et il y avait évidemment Peter Sellers qui incarnait à lui tout seul trois rôles dans le film. Évidemment, celui du docteur Folamour avec son bras mécanique, sa chaise roulante et ses lunettes noires. Personne n'a pu l'oublier. Je ne peux pas vous le faire, on est à la radio, mais de faire ça avec son bras et d'essayer de le ramener puisqu'il avait un peu de mal avec son bras mécanique. La petite fiche qui ne ment jamais dit qu'il devait interpréter quatre rôles et notamment celui du pilote de B-52 que nous évoquions tout à l'heure qui lâche malencontreusement une bombe sur laquelle il saute pour la chevaucher comme quelque chose d'autre, mais c'est toute l'ambiguïté et tout le rire de cette comédie féroce qu'il voyait aussi dans des rôles annexes mais marquants, George C. Scott, Sterling, Hayden, Keenan Wynn et quelques autres, bref, un grand chef-d'œuvre dans lequel il ne faut pas oublier aussi la qualité des décors de Ken Adam qui s'illustra ensuite en signant ceux de nombreux James Bond, pas forcément les meilleurs puisqu'il n'y avait plus Sean Connery, mais bref. Ce n'est pas le sujet de ce jour, la musique de ce film, elle était signée de Laurie Johnson qui fit beaucoup pour la musique de films anglaise plutôt des années 60. On va en écouter un petit extrait, allez je vous le refais, je ne m'en lasse pas. Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb in 24 notes secondes. Thank you. Voilà, et de musique fameuse pour un film qu'il n'est pas moins, un extrait de la bande originale du Docteur Folamour, une musique qui illustrait l'inexorable, c'est mieux, marche à la mort d'un pilote de B-52 qui se faisait appeler du doux nom de King Kong et qui finissait par déclencher la première guerre nucléaire, cette guerre dont Einstein disait, d'une façon peut-être un peu retraduite par moi, qu'il ne savait pas comment on ferait la prochaine guerre, mais qu'il savait comment on ferait la suivante avec des bâtons et des cailloux. Ma foi, on l'attend encore, la première guerre nucléaire. Enfin, on l'attend. C'est une façon de parler. Elle n'est pas vraiment venue, mais ma foi, elle a aussi dominé toutes les années 60-70, puisque la menace atomique fut une des grandes caractéristiques de la guerre froide à laquelle nous consacrons l'émission de 24 notes de ce jour, seconde, 24 notes seconde de ce jour, et on va enchaîner avec un extrait de la bande originale de ce qui fut le 50e film d'Alfred Hitchcock, un film tourné en 1966 et qui s'appelait Le Rideau Déchiré, The Torn Curtain, avec dans les rôles principaux Paul Newman et Julie Andrews, où on voyait Paul Newman apparemment faire défection pour se rendre à Berlin-Est et quelque part donc dans les pays communistes. L'histoire était des plus complexes, parfois franchement pas des plus intéressantes, mais Le Rideau Déchiré, sans être un des grands films Hitchcock, est au moins connu pour deux caractéristiques. D'abord parce qu'on y trouve un morceau de bravoure, en l'espèce le meurtre d'un personnage nommé Gros Mec, qui est assassiné, mais de manière très très lente et très très pénible, puisque on essaie de le tuer d'abord avec un chaudron plein de soupe, ensuite avec un couteau à découper, ensuite avec une pelle, et on le finit, si je puis dire, avec un four d'une cuisinière à gaz. Comme le disait Alfred Hitchcock, que tuer quelqu'un, ça peut être très long et très douloureux. Et c'était illustré de façon magistrale, comme le maître savait le faire dans ce film, dont l'autre caractéristique, eh bien, est de signer la rupture entre Alfred Hitchcock et celui qui avait été auparavant son compositeur attitré, puisque l'année précédente, il avait signé la musique de Marnie avec Sean Connery et Tippi Hedren, dans l'espèce Bernard Herrmann, et oui, celui de Vertigo, celui de Psychose, bien sûr, de La Mort aux Trousses, et de quelques autres aussi, qui signa une partition pour Le Rideau Déchiré, qui fut rejetée par le maître lui-même, ce qui signa la fin de leur collaboration. L'histoire du cinéma, puisque la partition fut reprise par John Addison, certes moins connu que Bernard Herrmann. Je m'y retrouve. On peut bien évidemment se procurer cette partition. On peut même jouer à un jeu. D'ailleurs, ça s'est fait, c'est-à-dire recoller la partition rejetée sur les scènes qu'elle était censée illustrer. Et c'était notamment le cas de la scène que je viens d'évoquer, qui était musicalement illustrée à sa façon par Bernard Herrmann et qui, dans le film d'Hitchcock, au outrage, était sans musique. Ma foi, c'était la fin d'une collaboration, peut-être pas dans les termes les plus glorieux, mais on va écouter évidemment un extrait de la partition de John Addison, Le Rideau Déchiré, Torn Curtain, 1966, Divergence FM. Je suis sûr que quelques amateurs l'auront noté. Une fois n'est pas coutume, petit rétro-pédalage dans 24 notes secondes. C'est bien 24 notes secondes, c'est bien un extrait de la bande originale de Rideau déchiré, mais c'est bien un extrait de la partition rejetée de Bernard Herrmann que nous venons d'écouter. Je vous ai dit tout à l'heure, donc, en fait, le susdit avait été remplacé par John Addison, mais bon, c'est du Bernard Herrmann que vous venez d'entendre, peut-être l'avez-vous reconnu, avec mes excuses. Donc, c'est la bande originale d'un film dont ce n'est pas la bande originale. Allez, vous récupérerez tout à l'heure et on ramassera les copies plus tard. On va se quitter avec un nouvel extrait d'une bande originale de Jerry Goldsmith. En l'espèce, la musique d'un film inspiré de John le Carré. On pouvait difficilement se passer de John le Carré pour évoquer la guerre froide. Ça s'appelait La Maison Russie, The Russia House in English. On y retrouvait dans les rôles principaux Sean Connery et la délicieuse Michelle Pfeiffer. Le tout se passait quelque part entre Saint-Pétersbourg, magnifiquement filmé, et Lisbonne, là aussi magnifiquement filmé. C'était aussi le cas de Michelle Pfeiffer. Elle était magnifiquement filmée. On en écoute un extrait. Jerry Goldsmith, The Russia House, dans 24 notes secondes. Pardon Jerry. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.